l'heure de retrouver Claire Flauchel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La fin des nuits blanches à Bruxelles après 3 jours de négociations. 2 hommes, 2 femmes ont enfin été nommés pour occuper les postes clés de l'UE. La française Christine Lagarde, nommée patronne de la Banque Centrale Européenne. Et c'est une ministre allemande, Ursula von der Leyen, qui va présider la Commission Européenne. Son portrait dans un instant.
En finir avec la haine et l'impunité sur Internet, c'est l'objectif du projet de loi discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée Nationale.
Les plateformes auront 24 heures pour retirer un contenu haineux sous peine d'une forte amende, plus de pouvoir aussi donné au CSA, le gendarme de l'audiovisuel. Vers un épilogue dans l'affaire Vincent Lambert, l'arrêt des traitements de ce patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans a commencé hier pour la 3e fois. Et puis que sait-on de l'accident qui a eu lieu lundi dans le Grand Nord? Un sous-marin nucléaire russe a pris feu, faisant 14 morts. On fera le point avec Claude Brouillot. Ce sont eux qui incarneront pour les 5 années à venir qui viennent nos institutions européennes. 2 hommes et 2 femmes au poste clé de l'Union. Les négociations à Bruxelles ont finalement abouti hier soir avec 2 surprises. D'abord, Christine Lagarde, la française à la tête du FMI depuis 8 ans et qui devient patronne de la Banque Centrale Européenne. Et puis au poste le plus important, une Allemande bien moins connue sur la scène internationale pour diriger, et c'est une première pour une femme, la Commission Européenne, la ministre Ursula von der Leyen. Ludovic Piétenu.
C'est une très jolie porte de sortie pour celle qui, depuis 2013, est la première femme à diriger la défense allemande et qui, politiquement, y a laissé énormément de crédit. Elle était vue comme la dauphine d'Angela Merkel à la chancellerie. Elle est aujourd'hui la ministre la plus impopulaire d'Allemagne. Et cela suffit pour devenir présidente de la Commission européenne. C'est agacé Martin Schulz, l'un de ses adversaires, un social-démocrate. Une façon de critiquer aussi le joli coup politique d'Angela Merkel, qui, à défaut du candidat allemand Manfred Weber, issu de la CSU bavaroise, a réussi à imposer sa protégée, pur produit de la CDU, son parti. Ursula von der Leyen est une conservatrice très modérée. Elle est mère de 7 enfants d'une famille aristocrate de Basse-Saxe. Son père faisait de la politique. Elle a grandi à Bruxelles, maîtrise l'anglais et le français.
L'Europe, c'est plus de solidarité et plus de responsabilité. La France et l'Allemagne, ce sont nos patries. Mais l'Europe, c'est notre avenir.
Ursula von der Leyen, extrait d'un discours de 20 minutes prononcé en français fin 2011 lors d'une convention de l'UMP. La voici, première femme à la tête de la Commission européenne, un poste clé que l'Allemagne n'a occupé qu'une seule fois.
Et puis on le disait, Christine Lagarde à la BCE, le Premier ministre belge Charles Michel devient président du Conseil européen et l'Espagnol Josep Borrell, nouveau chef de la diplomatie. Et ce sont aujourd'hui les eurodéputés qui se retrouvent pour élire leur président au Parlement de Strasbourg. Ils ont fait leur rentrée hier dans un Parlement fragmenté qui ne sait pas sur quel pied danser avec les Britanniques et dans lequel des équilibres politiques sont chamboulés. Dans ce nouveau paysage, les écologistes français arrivent en force, fiers de leur 13% aux élections européennes, mais déjà fatigués par les jeux de pouvoir qui polluent, selon eux, la vie politique. Rosalie Lafarge.
Ils ont le sourire, les écolos français, forts d'un bon score le 26 mai. Ils le savent, ils pèsent au Parlement européen. Le groupe Vert est la 4e force de l'institution. Mais ce sourire s'efface instantanément sur le visage de Yannick Jadot, la tête de liste des Verts français, quand on évoque les bisbilles des chefs d'État à Bruxelles.
Finalement, le seul sujet, c'est la répartition des postes. Dans un jeu de chaises musicales où finalement un libéral égale un socialiste égale un conservateur. On n'est pas à la hauteur du défi européen aujourd'hui.
Et pourtant, l'urgence est là, rappelle l'habitué des couloirs strasbourgeois Karima Deli.
Aujourd'hui, on est dans une urgence écologique et la feuille de route rien que du Conseil, c'était de mettre une bas de page sur la question climatique. Il nous reste 10 ans pour retourner la courbe des températures. On a besoin justement de ces citoyens parce que ça se joue dans les 5 ans à venir ici au Parlement.
D'autant plus besoin des citoyens parce qu'on ne peut pas vraiment compter sur les collègues des autres formations au Parlement européen, abonde David Cormann, secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, fraîchement élu eurodéputé. Il regrette le manque de volonté quand il s'agit, dit-il, d'aborder le fond des sujets.
Nous les écolos, c'est à la fois notre qualité et notre défaut, on est des bons élèves. C'est-à-dire qu'on est venu, on avait fait nos devoirs à la maison, on avait des idées très concrètes pour dire « Mais pendant la campagne, vous avez dit que vous voudriez, je sais pas quoi, la banque du climat. Vous avez dit que vous vouliez changer l'agriculture. » Et là, il n'y avait plus personne. En fait, ils ont gardé les mauvaises habitudes où la feuille de route, c'était une page avec des bonnes intentions, sans rien à l'intérieur. Et nous, on essaye de bousculer cette culture-là. Est-ce que c'est facile? Non.
Mais les écologistes refusent de baisser les bras tout de suite. Ils promettent de se battre pour offrir à l'Europe le sursaut écologique qu'elle semble réclamer dans les urnes.
Rosalie Lafarge, envoyée spéciale au Parlement à Strasbourg pour France Culture. Comment faire pour empêcher vraiment les contenus haineux de proliférer sur Internet? Les députés se penchent cet après-midi à l'Assemblée sur une proposition de loi voulue par Emmanuel Macron qui vise donc à bannir et à punir plus rapidement les messages racistes, homophobes ou sexistes. Le texte impose notamment de nouvelles responsabilités aux grandes plateformes, mais Frédéric Seize, il ne fait pas forcément l'unanimité parmi les députés.
Pour Laetitia Avia, députée La République En Marche et rédactrice de cette proposition de loi, il y a urgence à légiférer.
Il y a une impunité. Les condamnations aujourd'hui, elles sont de l'ordre de l'anecdote. Si on prend les derniers chiffres qu'on a en matière d'injures racistes sur Internet, on a eu 269 condamnations pour toute la France. C'est rien.
Le texte a été musclé en commission ces derniers jours. Il concerne les messages à caractère raciste, antisémite, sexiste, homophobe, mais aussi désormais l'apologie du terrorisme, le harcèlement et le proxénétisme. La loi oblige les plateformes et les réseaux sociaux à supprimer ces contenus en moins de 24 heures, sous peine d'amende. Alors lutter contre la haine en ligne, le sujet pourrait paraître consensuel, mais cette loi ne l'est pas. La France Insoumise craint en particulier que les plateformes ne se voient octroyer trop de pouvoir. Alexis Corbière.
J'observe que ce qui s'est passé notamment en Allemagne, sur un dispositif législatif qui ressemblait à celui-là, a amené à ce que les plateformes, ne voulant pas s'embêter, si je puis dire, censure ou du moins limite énormément les propos, et notamment sur des propos politiques bien souvent, sur des propos à l'occasion d'un conflit international, d'une prise de position, etc., etc. Et souvent, la question qui reste posée, c'est qui prend cette décision? Est-ce que c'est des êtres humains en capacité d'apprécier les choses, ou est-ce que c'est finalement des algorithmes qui, en fonction de mots-clés, bloquent ou pas?
Accusation rejetée par Laetitia Avia. Selon elle, c'est une question de responsabilité des plateformes numériques.
Je ne leur demande de décider de rien. Je leur demande d'appliquer la loi. Si jamais vous étiez dans un restaurant, que quelqu'un se levait et hurlait sale négresse, personne ne dirait « attention, on demande au patron du restaurant de décider si c'est illégal ou non ». On voudrait tous que cette personne soit exclue de ce restaurant. C'est cela, s'assurer que la loi s'applique dans un espace dont on a le contrôle.
Le Rassemblement national dénonce une loi dangereuse. Quant au parti Les Républicains et au PS, ils émettent des réserves mais n'ont pas encore fixé de position commune.
Frédéric Seize. Édouard Philippe en Corse aujourd'hui et demain. C'est la première fois que le Premier ministre se rend sur l'île de Beauté. Les dirigeants indépendantistes estiment que Paris refuse toujours d'entendre les revendications fondamentales du peuple corse.
8h07, la suite de votre journal Claire Flochel. Le cas de Vincent Lambert au cœur d'un nouvel appel du Comité pour les personnes handicapées des Nations Unies. Une fois de plus, il demande à la France de maintenir à titre conservatoire l'alimentation et l'hydratation du patient dans un état végétatif depuis 10 ans.
Demande qui fait suite à l'annonce d'un nouvel arrêt des traitements de Vincent Lambert hier. Arrêt engagé par le docteur Vincent Sanchez et son équipe au CHU de Reims. Et c'est ce médecin qui accompagnera Vincent Lambert jusqu'à la fin. On le dit déterminé, les autres avaient jeté l'éponge avant lui. Daniel Messager.
C'est un médecin en capacité morale d'aller jusqu'au bout. Il porte haut les valeurs déontologiques et je lui apporte mon soutien. C'est le docteur Éric Carigère, le premier médecin à avoir suivi Vincent Lambert, qui parle ainsi du docteur Sanchez. Ce dernier, selon toute probabilité, accompagnera Vincent Lambert jusqu'à son décès. Arrivé au CHU de Reims il y a 2 ans, très secret, il se soucie peu de son image, ne parle pas à la presse, il est légaliste. Il ira jusqu'au bout d'une décision validée par les juges, affirme une des sœurs de Vincent Lambert. Avant, il y avait eu le docteur Daniela Simon. D'origine roumaine, elle avait essuyé des insultes, des insinuations sur la légitimité de son diplôme. Elle n'avait pas mis en place un arrêt des traitements, tentant des procédures collégiales qui n'avaient jamais abouti avant de jeter l'éponge. Quant au docteur Carigère, bien que catholique pratiquant, il s'était lui aussi attiré les foudres des parents en entamant le premier arrêt des traitements en 2013, la mère profitant d'une absence d'information pour lancer la procédure juridique. Fatigué d'être traité de nazi et d'assassin, il s'était retiré en 2016. Reste donc le docteur Sanchez, celui qui, pour le neveu de Vincent Lambert, a fermé les écoutilles et fera juste son devoir de médecin.
Daniel Messager. L'INSEE dresse, comme chaque année, son portrait chiffré de la France qui travaille. Étude publiée hier. Principaux enseignements, tout ralentit. La baisse du chômage comme les créations d'emplois. Les salaires, eux, augmentent très peu. Ce portrait économique est aussi l'occasion pour l'Institut National de la Statistique de s'intéresser à certaines catégories de population, et notamment les immigrés et descendants d'immigrés. Les inégalités s'atténuent mais sont encore là. Anne Lorchouin.
Quel est l'effet des origines dans les difficultés d'insertion professionnelle? Immigrés et descendants d'immigrés ont-ils plus de difficultés à s'insérer dans le marché du travail, puis à y rester? Souffrent-ils d'inégalités salariales liées à leurs origines? De nombreuses études sur la question ont déjà été menées, mais sur les immigrés des vagues récentes, originaires d'Afrique subsaharienne ou de Turquie, l'INSEE n'avait encore jamais mené d'enquête spécifique. C'est désormais chose faite. Où il apparaît, sans réelle surprise mais validé par les chiffres, que si l'origine peut être un facteur discriminant à l'embauche, c'est-à-dire à l'accès au marché du travail français, une fois en emploi, ces personnes, immigrées ou descendantes d'immigrés, en pâtissent moins. Et si lorsqu'elles sont en emploi, elles souffrent d'inégalités de salaire, c'est plutôt à cause de facteurs liés au niveau de diplôme ou de maîtrise de la langue. Un cas particulier, les femmes venant de Turquie, elles sont nettement moins présentes que d'autres femmes issues de l'immigration sur le marché du travail français, alors que dans le même temps, à profil égal, les descendants d'immigrés turcs perçoivent globalement des salaires légèrement plus élevés que le reste de la population. Un phénomène étonnant que l'INSEE attribue à la capacité pour ces descendants turcs à mobiliser leur réseau, et ce malgré une moindre maîtrise du français. De façon générale, les immigrés perçoivent des salaires 10 à 40% moins élevés que les personnes dites sans ascendance migratoire directe. Leurs enfants, en revanche, réduisent ensuite ces écarts de salaire.
Précision signée Anne-Laure Chouin. Les agriculteurs français se sont mobilisés hier soir dans des dizaines de villes contre l'accord entre l'Europe et quatre pays d'Amérique latine, le Mercosur. Inquiétude aussi au Brésil. En dehors du gouvernement Bolsonaro qui se réjouit, certains craignent le pire sur le plan écologique. Jean-Mathieu Albertini.
La presse brésilienne est moins dithyrambique que les militants de Jair Bolsonaro qui lui attribuent tout le mérite. Pour elle, ce succès est plutôt dû aux efforts du gouvernement précédent et aux tendances protectionnistes de Donald Trump. Le président brésilien et ses proches ont en effet multiplié les critiques contre le Mercosur avant et après son élection, à tel point que certains se demandent si l'accord n'a pas été signé malgré lui. Mais cela reste une grande victoire politique pour Bolsonaro, dont la diplomatie jugée fantasque est très critiquée. Son ministre des Affaires étrangères s'est d'ailleurs empressé de minimiser les déclarations de la porte-parole du gouvernement français, qui affirmait hier que la France n'était pas prête à ratifier le traité. Les conséquences d'une augmentation des exportations agricoles sur l'environnement sont aussi mentionnées dans la presse locale, car le gouvernement détruit peu à peu les mécanismes de défense de l'environnement et rien n'indique que Jair Bolsonaro ne souhaite modifier sa politique pour respecter les contraintes stipulées dans l'accord. La presse brésilienne célèbre pourtant ce traité qui représenterait de nouvelles opportunités pour un pays en crise depuis plusieurs années, avec toutefois un petit bémol, car les détails ne sont pas encore totalement connus et plusieurs économistes s'interrogent. Un accord signé en position de faiblesse est-il une si bonne chose pour le pays ? Les quotas d'exportation de viande bovine brésilienne ont été par exemple largement revus à la baisse, tandis que l'industrie brésilienne est très peu compétitive face aux produits européens.
Jean-Mathieu Albertini, correspondant au Brésil pour France Culture. En Libye, les migrants paient le prix fort de la guerre entre les deux camps rivaux de l'Est et de l'Ouest du pays. Une frappe aérienne attribuée aux forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a tué près de 40 migrants et fait plus de 70 blessés dans un centre de détention hier en banlieue de Tripoli. 120 migrants étaient détenus dans un hangar. Un incendie dans un sous-marin russe. 14 marins sont morts, d'après le gouvernement de Russie. L'accident est survenu lundi, mais on l'a appris officiellement que 24 heures plus tard, pour la bonne raison que la fonction réelle de ce sous-marin pose toujours question. Claude Brouillot.
Deux versions s'opposent sur la nature du sous-marin nucléaire accidenté. La première, officielle, assure qu'il s'agit d'un submersible uniquement dédié aux recherches, mais la seconde, émanant de médias indépendants tels que Novaya Gazeta, affirme, en précisant tenir leurs renseignements de sources sécuritaires, qu'il est question au contraire du sous-marin AS-12 Le Charik, un bâtiment classé top secret, conçu pour des opérations de sabotage en cas de conflit, telles que la destruction des liaisons transcontinentales en grande profondeur. Pour Vladimir Poutine, qui s'adressait hier soir à son ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, il s'agissait surtout de montrer sa compassion et sa réactivité face au drame.
C'est une grande perte pour notre flotte. Je présente mes sincères condoléances aux familles. Il faut tout faire pour les aider. Je vous demande d'aller sur place pour prendre en compte les rapports militaires et donner l'ordre à la commission d'enquête de découvrir les causes de cette tragédie.
19 ans après la catastrophe nationale du Koursk qui avait tué 118 sous-mariniers déjà en mer de Barents, Vladimir Poutine évite les critiques cette fois, mais n'efface pas les questionnements sur cette nouvelle défaillance d'un sous-marin nucléaire russe.
Claude Brouillot pour France Culture. On termine avec la météo de ce mercredi. Le beau temps s'installe au nord de la Loire, mais sera plus contesté dans le reste du pays après une nuit orageuse dans le sud-est. Dans le sud-ouest, la grisaille est encore compacte en matinée. Les minimales ce matin de 9 à 15 degrés au nord de la Loire jusqu'à la Lorraine, de 14 à 19 degrés ailleurs et de 19 à 25 degrés sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup Claire Flochel. Rendez-vous à 9h pour un prochain journal.